suite pour la dignité, cette émission mensuelle pour les droits humains avec Régis Coulange d'Amnesty International. Bonjour Régis.
Bonjour Odile, bonjour à tous. Donc nous faisons suite à une émission que j'ai écoutée en venant là et qui parlait justement de la pollution de l'air, hein, de l'importance de respirer un air sain. Et ben, c'est, pour nous, ça fait partie des droits humains, hein, puisque respirer un air sain, c'est être en bonne santé, et c'est un des droits humains, hein, de faire en sorte que les personnes vivent en bonne santé. Et puis en plus, on a écouté Victor Hugo et Spinoza qui, du temps des dictatures de Pinochet au Chili, a été soutenu, comme de nombreux autres opposants, par Amnesty International. Voilà, donc le lien est fait entre l'émission que vous venez d'entendre et mon émission. Alors aujourd'hui, on va parler de l'examen périodique universel, EPU, qui a concerné la France. Ensuite, on parlera de Hong Kong, la clandestinité ou l'exil, hein, depuis la mainmise de la Chine sur ce pays. Et puis, on parlera de la première action urgente d'Amnesty International qui concernait un Brésilien. Et ensuite, l'actualité du groupe de Digne, et notamment la foire aux livres qui va se tenir vendredi et samedi de cette semaine à l'Atrium. Voilà. Alors, on va commencer donc par l'examen périodique universel. Voilà. Le 1er mai, la France a présenté son bilan en matière de droits humains devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à l'occasion de l'examen périodique universel. C'est un mécanisme qui permet, tous les 5 ans environ, d'évaluer la manière dont chacun des 193 États membres de l'ONU respecte ou non ses engagements en matière des droits humains. C'est l'occasion de dresser un bilan de la politique des droits humains de la France ces 5 dernières années sous le mandat d'Emmanuel Macron. Alors, quelle est la tendance générale de notre pays? Assiste-t-on à une régression de nos droits ou à une amélioration de la situation? Nous étions à Genève le 1er mai pour observer en direct ce qu'en pensent les États. Voilà, donc c'est un examen périodique qui dure pendant 6 mois. Il commence par un dialogue interactif à Genève qui permet aux autres États, membres de l'ONU, de formuler des recommandations à l'État examiné sur des éléments de sa politique de droits humains et de remarquer des progrès ou au contraire des reculs ou aggravations depuis l'examen précédent. Le 1er mai, la France a reçu l'ensemble des observations des autres États. Elle a ensuite jusqu'en novembre pour répondre à chaque recommandation en l'acceptant ou en la refusant. L'examen périodique universel s'achèvera alors avec l'adoption d'un rapport définitif qui constituera un engagement politique fort de la France. Les recommandations acceptées par la France pour un meilleur respect des droits humains serviront de feuille de route des engagements à mettre en œuvre par la France, sur laquelle s'appuieront la société civile et le Parlement pour les 5 années suivantes. C'est là toute l'importance de l'EPU, obtenir des engagements concrets pour s'assurer qu'ils soient mis en œuvre. Et nous, à Amnesty International, nous nous sommes mobilisés pour rappeler le gouvernement français à ses promesses prises devant la communauté internationale. Alors, quel est le bilan de la France pour ces 5 dernières années ? Depuis le dernier examen de la France, on a enregistré peu d'améliorations. Nous saluons tout de même 2 points. L'amélioration de l'accès à une éducation de qualité pour les enfants étrangers, quel que soit leur statut administratif sur le territoire. Et puis la poursuite des politiques permettant aux personnes transgenres d'obtenir plus facilement reconnaissance de leur genre à l'état civil. Voilà. Ensuite, nous déplorons de nombreuses promesses non tenues. Par exemple, sur le droit de manifester. Alors que les attaques se multiplient contre le droit de manifester, peu de progrès ont été constatés sur l'application des recommandations de 2018, pourtant acceptées par la France, relatives à l'usage illégal de la force par la police et de ses répercussions sur l'exercice de ce droit. Sur la liberté d'expression et d'association, la loi d'août 2021 visant à renforcer les valeurs républicaines a accru les menaces qui pèsent sur la liberté d'expression et d'association en France. Et puis sur les transferts d'armes, alors que la France avait accepté une recommandation de 2018 à ce sujet, les transferts d'armes classiques risquant d'être utilisés pour commettre ou faciliter de graves violations du droit international humanitaire et des droits humains se poursuivent, hélas. Donc à l'occasion de cet examen, de nombreux États ont exprimé de vives inquiétudes, notamment sur l'usage excessif de la force et les pratiques discriminatoires des autorités du maintien de l'ordre. En adéquation à nos demandes, plusieurs pays, dont le Luxembourg, la Suisse, ont appelé la France à repenser sa doctrine de maintien de l'ordre pour aller vers des stratégies de désescalade et prendre en compte les impératifs d'usage proportionnel et nécessaire de la force. Les pratiques discriminatoires telles que le profilage racial ont été dénoncées, ainsi que les nombreuses atteintes aux droits des migrants et demandeurs d'asile. Certains pays ont fait part de leur inquiétude concernant les femmes et les enfants migrants en particulier. L'Afrique du Sud a, quant à elle, appelé les autorités françaises à prendre des mesures pour garantir des enquêtes impartiales par des organes véritablement indépendants et extérieurs à la police dans tous les cas d'actes racistes impliquant des policiers. De nombreux pays, dont l'Irlande, ont mis l'accent sur la nécessité de renforcer l'accompagnement, la protection et l'accès à la justice des femmes victimes de violences. Usage excessif de la force, pratiques discriminatoires, droits des minorités de genre, des migrants ou des enfants mis à mal. Malgré tous ces discours, malgré les progrès qu'elle a mis en avant lors de son examen, la France n'est pas exemplaire en matière de droits humains. Nos principales demandes. Nous appuyons les demandes faites à la France. 2. Réformer la doctrine du recours à la force pour le maintien de l'ordre. On voit que c'est un pays en Europe où il y a le plus de violence dans les manifestations. Voilà, il y a des choses à changer. Respecter les droits des demandeurs d'asile, des réfugiés et des migrants. Permettre aux victimes d'accéder à la justice en rendant possible la pleine application de la compétence universelle. Parmi nos principales recommandations figurent également nos demandes concernant la surveillance numérique ciblée. Il s'agit donc d'un système de contrôle ou d'espionnage de personnes ou d'organisations spécifiques pouvant intéresser les autorités à l'aide de technologies numériques. La surveillance numérique ciblée peut passer entre autres par le piratage des appareils via l'installation de logiciels malveillants ou espions ou par des campagnes d'hameçonnage compromettant les communications numériques. En juillet 2021, vous vous souvenez peut-être, les révélations Pegasus ont dévoilé un scandale mondial de cybersurveillance. Depuis, dans le monde entier, des journalistes et des avocats et des défenseurs des droits humains continuent d'être illégalement espionnés, permettant ainsi de graves violations du droit au respect à la vie privée, de la liberté d'expression, d'association, encore de réunion pacifique. Près de 2 ans après les faits, le secteur ne fait l'objet d'aucune véritable régulation et se développe dans la plus grande impunité. Ce premier EPU depuis les révélations Pegasus doit être l'occasion pour la France de jouer un rôle moteur pour prévenir et empêcher les atteintes aux droits humains liées aux technologies de surveillance numérique. Notre demande, la France doit se positionner fortement et publiquement en faveur d'un moratoire mondial sur la vente, le transfert et l'utilisation des logiciels espions jusqu'à ce qu'un cadre réglementaire solide et respectueux des droits humains soit mis en œuvre. Les défis sont nombreux, la France doit maintenant prendre la mesure de toutes les critiques formulées par les autres États comme par la société civile et prendre des engagements concrets et ambitieux pour y répondre. Voilà, et nous suivrons bien sûr ces engagements, on observera tout ça. On va maintenant écouter HK qui chante « La fin du mois, le début du nous ».
Ça commence à l'école, au jeu du premier de la classe. Quand notre candeur s'efface, que l'enfant s'envole. De concours en examen, nos vies sont en compétition. Ou quand se tendre la main devient l'exception. C'est ainsi que l'on vit dans des châteaux de l'ego. Ainsi que l'on en vit nos alter ego. Dans ce grand jeu du moi-je, tous les 5 ans on engage l'élu providentiel tombé du ciel.
La fin du mois, enfin, le début du nous. Nous voulons, nous voulons, nous voulons changer tout ça, changer tout. La fin du mois, enfin, le début du nous.
Le début du nous.
Nous nous allons changer tout ça, changer tout.
Y aurait-il ceux qui gouvernent et ceux qui leur obéissent, ceux qui savent faire et ceux qui seulement les élisent, puis se doivent de la fermer jusqu'à la prochaine élection, parce qu'un chef ça doit chefer comme le Saint-Père de la nation. Notre destin entre les mains de ceux qui pensent être l'élite, ne soyons plus spectateurs de nos vies qui se délitent. Amis, réagissons vite, quittons ce système dépassé, à la solde des vaniteux se vantant d'être nos messies. Est-ce donc ça la démocratie? Dites-moi, êtes-vous vraiment sûr? Quand on réprime dans la violence tous ceux qui crient à l'imposture, serions-nous tel un troupeau aveuglé, discipliné, prêt à suivre même un loup s'il promet qu'il est un berger? Des gens qui disent qu'ils savent, qui voudraient tellement qu'on les suive, parce qu'il faut bien quelqu'un nous sauve. Pauvres sauvages que nous sommes, pensent-ils? Faisons-leur savoir que ces temps-là sont révolus, des millions derrière un seul, ce système nous n'en voulons plus.
La fin du mois, enfin, le début de nous. Nous voulons changer tout ça, changer tout. La fin du mois, enfin, le début de nous. Nous allons changer tout ça, changer tout.
L'abus du jeu est dangereux pour la santé, pouvant provoquer des crises d'égo surdimensionnées, disons-le sans émoi. Voici venue la fin du mois, consumée de préférence avant la fin de ce mois. Rêvons à voix haute, que les hirondelles nous entendent. Ce qui nous appartient, nous sommes venus le reprendre. Ces matins ensoleillés qui depuis longtemps nous attendent, faisons naître de nos mains tout ce qui ne peut pas se vendre.
La fin du mois, enfin, le début de nous. Nous voulons changer tout ça, changer tout. La fin du mois, enfin, le début de nous. Nous allons changer tout ça, changer tout.
Voilà, on va maintenant parler de Hong Kong, hein, la perle de l'Orient, on l'appelait, qui a été mise au pas par la Chine depuis la loi de sécurité nationale en 2020. Les Hongkongais, refusant ce nouvel ordre chinois, se tairent, poursuivent discrètement la lutte ou alors s'exilent. Son Excellence le juge Ko Wan Li annonce un huissier du tribunal de Wangche, un quartier situé à deux pas du quartier d'affaires de l'île de Hong Kong. Le public de la salle d'audience se lève pour saluer le magistrat qui prend place sur l'estrade. À sa gauche, dans le box des accusés, les journalistes Cheng Pui Ken et Patrick Lam. Comme plusieurs autres médias d'opposition de la ville, leur journal, Stand News, a été fermé au titre d'une loi de sécurité particulièrement liberticide imposée par Pékin en juin 2020. Les deux reporters encourent une peine de prison ferme pour leur couverture du soulèvement antigouvernemental de 2019. 2 millions de Hongkongais étaient alors descendus dans la rue pour s'opposer à la mainmise grandissante de la Chine. La procureure commence à pilonner les deux hommes. Et ce texte-là, ne pensez-vous pas qu'il renforce le camp des manifestants? D'ailleurs, quelle est votre opinion personnelle sur ces événements? Questionne-t-elle en brandissant une pile de vieux articles du journal. Mon opinion n'a pas d'importance. Le but d'un journal est de créer un forum où différents points de vue peuvent s'exprimer, tente Cheng Pui Ken, avant de se voir opposer d'autres publications séditieuses. Soudain, le juge Wang Lin se joint à l'interrogatoire. Quelle est votre opinion politique quant aux demandes des manifestants? Demande-t-il au journaliste. Puis, un peu plus tard, répondez enfin, quel est votre sentiment personnel? L'opinion du juge est en revanche bien connue. En 2020, il avait qualifié les manifestants de terroristes. Face à l'interrogatoire, au relent de procès politiques, un avocat présent dans l'Assemblée hoche la tête. Notre système judiciaire faisait autrefois la fierté des Hongkongais et assurait le rayonnement international de la ville. Il est devenu méconnaissable. L'état de droit est parti en fumée. 3 ans après avoir vacillé sous la pression populaire, les autorités hongkongaises se livrent à une véritable chasse aux sorcières. Une centaine de militants politiques sont incarcérés ou menacés de l'être. Syndicats professionnels et organisations étudiantes ont été dissous. Plusieurs ONG étrangères, dont Amnesty International, ont dû plier bagages. Même les conseils de quartier, pourtant dévolus au ramassage des poubelles et autres contingences locales, ont été purgés de leurs élus jugés trop proches des idéaux du soulèvement de 2019. Rétrocédé à la Chine par les Britanniques en 1997, l'Appel de l'Orient était censé maintenir son propre système politique pendant un demi-siècle, mais elle aura été bâillonnée avec une génération d'avance. Lynn, une ancienne salariée d'Amnesty International à Hong Kong, ayant dû s'exiler en Europe au début de l'année 2022, s'inquiète en particulier du sort des 47 opposants politiques dont le procès s'est ouvert début février. Leur crime ? Avoir participé pendant l'été 2020 à la primaire du camp pro-démocratie en vue des élections législatives. La plupart ont passé les 2 dernières années en détention provisoire. Leur incarcération pour une période aussi longue est illégale. C'est un premier signe qu'ils ne bénéficieront pas d'un procès équitable. Et comme toujours, dans les affaires ayant trait à la loi de sécurité, leur juge a été choisi directement par le gouvernement. Cela n'augure rien de bon non plus, tempête Lynn. Xiao Poying, l'épouse de l'un des 47 accusés, nous avait reçu peu avant l'ouverture du procès. Son mari est une figure de l'opposition hongkongaise. Infatigable militant de l'instauration du suffrage universel direct, pilier de la révolution des parapluies de 2014 et fondateur de l'un des principaux partis d'opposition de la ville, a été arrêté en janvier 2021 et encourt 8 ans de prison. En attendant le verdict, j'ai repris la tête du parti politique qu'il a fondé. Mais militer à Hong Kong est devenu très compliqué, explique Xiao Poying, tristement assise au milieu d'un fatras de carton, mégaphone et appareils électroniques, emplissant le dernier étage d'un immeuble vétuste. Nous cherchons de nouveaux locaux car le précédent propriétaire nous a mis à la porte. Les gens ont peur d'entretenir des liens avec les opposants. Nous sommes devenus des pestiférés. Et la situation pourrait bien empirer. Le gouvernement hongkongais a réduit la capacité des partis politiques à lever des fonds et il étudie une proposition de loi obligeant toute association à obtenir l'aval de l'exécutif avant de lancer une campagne de financement participatif. Au siège du Parti démocrate, l'autre grand parti d'opposition de la ville, on s'inquiète de devoir mettre la clé sous la porte. Nous n'osons même plus nous coordonner avec les autres partis alliés au risque d'être accusés de subversion, confie l'un des dirigeants sous couvert d'anonymat. Le simple fait de répondre à la presse étrangère, craignent-ils, peut constituer une collusion avec un élément externe, aux yeux de la loi sur la sécurité nationale. Un crime passible de 3 à 10 ans de prison. Cette menace de collusion avec l'étranger constitue l'un des principaux obstacles à notre travail d'enquête, raconte Lynn, l'ex-employé d'Amnesty International. Il est devenu presque impossible de parler aux activistes. La plupart d'entre eux se murent dans le silence, d'autant que le rythme des arrestations de militants ne montre aucun signe d'essoufflement. Fin mars, le célèbre défenseur des droits humains, Albert Ho, qui encourt jusqu'à 10 ans de prison, a été arrêté simplement pour avoir interféré avec les témoins pendant qu'il se trouvait en liberté sous caution. Voilà, cet article, vous pouvez le retrouver dans notre journal qui s'appelle La Chronique, que vous pouvez lire à la médiathèque de Digne-les-Bains, puisque nous l'avons abonné. Mais vous pouvez également vous abonner à ce journal, hein, même en n'étant pas membre d'Amnesty, parce que c'est un des rares journaux qui n'appartient pas à un milliardaire. Il appartient à Amnesty International. Voilà, donc ça s'appelle La Chronique. C'est le journal de mai 2023 qui est à la disposition des lecteurs à la médiathèque. Et vous pouvez vous y abonner. Vous avez des informations complètement indépendantes, parce qu'Amnesty n'a aucune subvention d'aucun État ni établissement international. Voilà. Donc ça s'appelle La Chronique. On va maintenant écouter Zaz dans sa chanson « Je veux ».
belle, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-da, pa-pa-pa-da. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des langues de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça. Je suis comme ça. Pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Alors, maintenant je vais vous parler d'une forme d'action d'Amnesty International qu'on appelle l'action urgente. Et je vais vous parler de la première action urgente que nous avons lancée en 1973, c'est-à-dire 12 ans après sa création par l'avocat britannique Peter Benenson, la création d'Amnesty International. Donc on a décidé en 1973 d'ajouter un nouvel instrument d'action imparable, une nouvelle force de frappe, ce qu'on appelle l'action urgente. Action urgente qui continue actuellement, puisque tous les membres d'Amnesty de notre groupe reçoivent régulièrement des actions urgentes. Et donc il y a le mot urgent et donc on écrit très rapidement aux autorités pour demander des libérations, la fin de torture, etc. Chaque fois que des personnes risquent leur vie aussi, puisqu'on demande aussi, il y a des actions urgentes par rapport à des condamnations à mort, des exécutions qui doivent avoir lieu rapidement. Voilà, donc en 1973, à Sao Paulo, au Brésil, donc on revient aux dictatures sud-américaines de l'époque. Une unité conjointe de policiers et de soldats lourdement armés s'introduit de force dans le domicile du professeur Luis Basilio Rossi, qui est un militant de gauche, et l'emmène sans fournir d'explication. Comme pour beaucoup d'autres éléments jugés subversifs, enlevés par les autorités au Brésil à l'époque, sa détention n'est pas déclarée. Pour éviter que la nouvelle ne se répande, les forces de sécurité encerclent le domicile du professeur et cloue des planches de bois sur la porte d'entrée pour empêcher sa femme, Maria José, et leurs trois jeunes filles de sortir. Maria José réussit malgré tout à glisser un mot par la fenêtre de derrière, trouvé par la jeune fille, une jeune fille de leur voisin. Rapidement, le message arrive entre les mains d'un prêtre qui, à son tour, le transmet à l'archevêque de Sao Paulo, Ernesto Arns. Son office informe alors l'Université catholique de Louvain, en Belgique, un centre de théologie de la libération catholique et progressiste. Parmi les jeunes théologiens, certains ont déjà entendu parler d'Amnesty International, ils décident de transmettre les détails de l'affaire à notre siège à Londres. De l'autre côté du globe, Amnesty International reçoit depuis un certain temps des informations inquiétantes du Brésil, faisant état d'un recours systématique à la torture par l'État à l'encontre de personnes soupçonnées d'être des opposants au régime militaire. Ces personnes sont régulièrement torturées. Les tortures interviennent dès les premières 48 heures de la détention et dans les semaines ou les mois suivants. Il faut donc agir très vite. On sait que certaines personnes sont décédées des suites des tortures subies. D'autres ont tout bonnement disparu. Face à l'horreur de ces cas, le temps est compté. Les premiers modes d'action de notre organisation ne semblent malheureusement pas adaptés à l'urgence des situations. Le temps que les groupes commencent à travailler, les personnes détenues, comme le professeur Ruiz, risquent déjà d'être soumis à la torture. Nous avions invité l'un de nos contacts brésiliens, un avocat et militant respecté, qui s'était exilé à Paris, à venir à Londres pour une rencontre avec Martin Enals, alors secrétaire général. Nous avons passé notre week-end à étudier le problème et nous en avons conclu que nous avions besoin d'une action rapide pour les personnes détenues en danger, qu'elles aient le statut de prisonnier d'opinion ou non. J'ai proposé de les appeler des actions urgentes et le nom est resté. C'est Tracy Ultev-Mo, qui était chercheuse à Amnesty International sur le Brésil en 1973, qui parlait. Bien plus qu'un nom, l'action urgente, c'est une nouvelle manière d'agir qui est née ce jour-là. Pendant 50 ans, via des courriers, fax, mails, tweets, les actions urgentes vont générer des millions d'appels en faveur des milliers de personnes à travers le monde et sauver de nombreuses vies. Le professeur brésilien, enlevé par l'armée au beau milieu de la nuit, devient la première action urgente d'Amnesty International. L'appel pour sa libération n'est pas seulement envoyé à un groupe local pour adoption, il est envoyé à un large éventail d'associations internationales, d'universitaires, d'avocats, de journalistes et de confédérations syndicales. Toutes sont priées de s'adresser aux représentants des autorités. Deux semaines plus tard, Marie-Josée Rossi reçoit un télégramme lui demandant de se présenter au quartier général de la police militaire à Sao Paulo pour identifier le corps de son mari. Mais à son arrivée, son mari est bel et bien vivant. À leur côté, une pile de lettres. « Votre mari doit être plus important que ce qu'on pensait, parce qu'on a reçu toutes ces lettres venant de partout dans le monde », énonce le directeur, qui force Maria José à signer une lettre stipulant que Luis est en vie, en bonne santé, qu'il n'a pas été torturé, et que l'action internationale doit cesser. De fausses informations que les autorités prennent le soin d'adresser à Amnesty International à Londres. Marie José, elle, a une autre histoire à écrire, pour raconter notre véritable histoire et expliquer que Luis avait été torturé, mais que plusieurs centaines de lettres de protestation étaient parvenues aux autorités et lui avaient, à mon sens, sauvé la vie. Luis nous dit « La torture vise à vous isoler, à vous couper du monde extérieur. Mais Amnesty International a rompu mon isolement. Une fois que les autorités savent que d'autres personnes savent que vous êtes là et sont informées de ce qui vous arrive, elles sont obligées de faire plus attention à la façon dont elles vous traitent. Quand j'ai vu ma femme, j'ai su que mon cas avait été porté sur la place publique et qu'on ne pouvait plus me tuer. Alors, les pressions dont je faisais l'objet se sont atténuées et mes conditions de détention se sont améliorées. » Après sa libération, la famille a quitté le Brésil pour s'installer en Belgique. Luis est devenu ami avec les militants locaux d'Amnesty Belgique. Entre 1975 et 1980, ils ont parcouru le pays pour étendre la présence de l'organisation sur le territoire. La force de son témoignage a convaincu de nombreuses personnes à se mobiliser pour les droits humains et devenir membres d'Amnesty International. À leur retour au Brésil, des années plus tard, Maria José a quant à elle contribué à la création d'un réseau professionnel de la santé d'Amnesty International. Elle est l'une des membres fondateurs du groupe local de Brasilia. Avec son mari, elle a participé à de nombreux événements en faveur des droits humains dans le monde entier. Luis s'est éteint le 21 janvier 2023 à Brasilia, au Brésil, à l'âge de 83 ans. Deux mois avant le 50e anniversaire de son action urgente. Qu'il repose en paix, que son histoire puisse nous rappeler nos interconnexions en tant que mouvement et qu'il puisse nous inspirer encore longtemps à mener nos actions urgentes. Voilà, donc ça montre, cet exemple montre la puissance de l'action urgente. Et puis le fait qu'on s'occupe de personnes, bien souvent ces personnes, quand on arrive à les faire libérer, deviennent des militantes d'Amnesty International. Alors n'hésitez pas, si vous êtes intéressé pour envoyer des actions urgentes, contactez-nous. Vous pouvez m'appeler, Régis Coulange, au 06 81 34 18 83. 06 81 34 18 83. Voilà, vous pouvez faire des actions urgentes, même en n'étant pas membre d'Amnesty. Mais si vous l'êtes, c'est encore mieux. Voilà, ça peut être une action par mois ou deux, un peu à votre choix. N'hésitez pas à participer à ces actions urgentes qui sont efficaces, malgré tout. Voilà, ben on va écouter un militant d'Amnesty de Digne qui avait composé une chanson justement pour Amnesty. Il s'appelle Jacques Lair. Et beaucoup de Dinois doivent le connaître. Nous l'écoutons.
Pour seul délit, j'ose penser, trop fort, trop la liberté. Je refuse la dictature, quelques barreaux et quatre murs. Je me retrouve emprisonné, mon intégrité torturée. Ils ont muré mon âme, Amnesty, Amnesty. Allume ta bougie, Amnesty, Amnesty. Écris-moi, je t'en prie, libère le vol de la colombe, éclaire cet horizon si sombre. Ma faiblesse est d'être un enfant, né d'une ville à feu à sang. Ils ont mis dans mes mains une arme, pour venger mon peuple et mes larmes. Alors je tire sur des ennemis, qui étaient hier mes amis. Ils ont blessé mon âme, Amnesty, Amnesty. Allume ta bougie, Amnesty, Amnesty. Écris-moi, je t'en prie, je ne veux plus creuser des tombes, mais voir voler haut la colombe. Je suis né seul, je suis né pauvre, jeune et joli livré aux fauves, qui m'offre une cage dorée, où je me sens sali, bafoué, privé de mon identité, abusé, caché, oublié. Ils ont violé mon âme, Amnesty, Amnesty. Allume ta bougie, Amnesty, Amnesty. Écris-moi, je t'en prie, efface les souillures immondes, déploie les ailes de la colombe. Mon cœur est guidé par un dieu, mais chez moi il n'en faut pas deux. Ils m'ont forcé à le renier, sous une épée je dois prier, sous peine de connaître l'enfer et terminer six pieds sous terre. Ils crachent sur mon âme, Amnesty, Amnesty. Allume ta bougie, Amnesty, Amnesty. Écris-moi, je t'en prie, les dieux volent en paix et en ombre, sous les ailes de la colombe. Seul délit est de défendre ce qu'on veut torturer et pendre, d'agir pour que les droits de l'homme ne s'effacent pas d'un coup de gomme. Mon engagement clair et lucide dérange les liberticides. Ils enchaînent mon âme, Amnesty, Amnesty. Allume ta bougie, Amnesty, Amnesty. Écris-moi, je t'en prie, tes coups de plume sur le monde, ouvre la cage de ma colombe. Amnesty, Amnesty, allume tes bougies. Amnesty, Amnesty, écris-nous, je t'en prie. Amnesty, Amnesty, j'allume ma bougie. Amnesty, Amnesty, pour libérer, j'écris. Thank you.
Magnifique chanson de Jacques Lair.
Oui, et puis qui dit bien le travail d'Amnesty. Oui, hein, qui, oui. Ouais. Merci Jacques encore pour cette belle chanson. Voilà, donc maintenant je vais vous parler du groupe de Digne. Nous organisons vendredi 12 mai et samedi 13 mai notre fameuse foire aux livres de printemps. Voilà, alors c'est important pour nous parce que, je vous le rappelle, Amnesty International est complètement indépendant de tous les pouvoirs et donc ne demande aucune subvention justement pour garder précieusement cette indépendance qui est une de nos richesses. Et donc nous recherchons des fonds hein, par les dons, les legs, etc. Et puis aussi par les actions des groupes qui font par exemple des foires aux livres. Il y a beaucoup de groupes d'Amnesty qui se sont un peu spécialisés dans les foires aux livres parce que en fait on sait très bien que dans les dictatures on brûle les livres des opposants. Et pour nous le livre c'est tellement important pour la liberté. Hein. Donc, on a vu le Salon du Livre qui a attiré beaucoup de monde à Digne. Voilà, donc c'est important. Alors, on fait ça et c'est très fatigant, il faut le reconnaître. Mais c'est très intéressant. Et puis, en même temps, on met bien sûr nos pétitions. Alors, vous trouverez, quand vous viendrez, si vous venez, vous trouverez une pétition justement demandant un contrôle des armes à l'étalité réduite en manifestation. Une pétition pour la reconnaissance faciale dans nos villes, c'est non. Et puis, par rapport à Hong Kong, dont je vous ai parlé aussi, on demande la liberté pour Cho Hang Tung, qui est emprisonné pour avoir rendu hommage aux victimes d'une répression meurtrière, puisqu'elle rendait hommage, avec tous les Hongkongais, aux victimes de la répression de la place Tiananmen en 1989. Voilà, et cette manifestation est maintenant interdite depuis la mainmise de la Chine sur l'île. Donc, venez nombreux. Alors, vendredi 12 mai 2023, dans la salle de l'Atrium, de 9h à 18h. Et le samedi 13 mai 2023, de 9h à 14h. Vous trouverez des milliers de livres à votre disposition à des prix modiques. Avec beaucoup de nouveautés, puisque régulièrement, des sympathisants d'Amnesty nous appellent pour nous donner des livres. Voilà, tous ces livres nous ont été donnés et sont vendus au profit d'Amnesty International. Donc, il y a une grande partie qui va à Amnesty International France. Et Amnesty International France cotise aussi au niveau mondial pour justement payer les chercheurs, la recherche, les informations, les actions, voilà. Et puis, nous, en tant que groupe, on participe aussi, on a besoin d'un financement pour faire notamment de l'éducation aux droits humains, voilà, acheter du matériel, de l'information, etc. Voilà, donc venez nombreux. Hein, je vous rappelle, vendredi 12 mai, de 9h à 18h, et samedi 13 mai, de 9h à 14h. Si parmi les auditeurs, il y a des gens qui veulent venir nous aider à installer, c'est volontiers. Alors dans ce cas-là, rendez-vous le mercredi, ça fera 10 mai, à 14h. Nous allons chercher les livres là où ils se trouvent pour les amener à la médiathèque, à la salle de l'Atrium, pardon. Et le samedi 13 mai, à partir de 14h, on remballe les livres qui n'ont pas été vendus et on les amène dans un garage... pour la prochaine foire aux livres d'automne.
Donc voilà. On donne votre un numéro de téléphone ou un endroit où on vous rattrape, on vous retrouve.
Donc vous pouvez m'appeler au 06 80 34 18 83 et si vous voulez nous aider, vous venez à la salle de l'Atrium le mercredi 10 mai, là, ce mercredi à partir de 14h. Et pour installer, et le samedi 13 mai à partir de 14h, toujours à la salle de l'Atrium, pour ranger les livres et les ramener au garage. Voilà, on a la camionnette du Secours Populaire, hein, qui est une association, bien sûr, amie, et qui nous prête leur camionnette très gentiment. Voilà, donc il y aura aussi, à cette foire aux livres, une carte pour notre prisonnier politique dont on s'occupe plus spécialement, le groupe de Digne. Il s'appelle Luis Manuel Otero Alcantara, c'est un artiste emprisonné et condamné à 5 ans de prison juste pour avoir demandé la fin de la censure sur les œuvres des artistes et des écrivains à Cuba. Voilà. Donc vous pourrez aussi signer une carte en sa faveur. Voilà, on va donc terminer cette émission avec la chanson des Frangines, Donnez-moi. Merci beaucoup à tous.
Au revoir Régis, au mois prochain.
J'aurais beau parler les langues du monde, j'aurais beau être un gagnant, j'aurais beau n'être pas des gens de l'ombre, j'aurais beau être puissant. Donnez-moi l'automne, donnez-moi du temps, donnez-moi de l'été, donnez-moi de l'art, donnez du printemps, donnez de la beauté, donnez-moi de l'or, donnez de l'argent, donnez-moi un voilier.
Peace.